question de séance de questions-réponses. C'est vrai qu'aujourd'hui, qui est un jour férié, nous n'avons pas salle comme ni à Goma ni à Kinshasa, mais nous allons quand même prendre les questions que vous avez, vous, les journalistes présents à cette conférence de presse. Comme d'habitude, je vais vous demander de fermer vos téléphones portables, de les mettre sous silencieux. Et nous commençons ici, donc, à Kinshasa, avec une question d'une dame ici. On peut commencer par la dame, et puis ensuite, on remontera la pente. Voilà. Merci bien. Présentez-vous, et puis, une question, s'il vous plaît.
Monsieur Néné, petit journal d'opinion. Une question pour Monsieur Charles. Pouvez-vous confirmer ou infirmer l'évasion massive du prisonnier à la prison centrale de Makala?
En fait, nous avons appris cette information. Je peux dire que depuis très tôt le matin, les patrouilles de la police des Nations Unies sont dans la zone. Une des éléments de la patrouille, enfin des policiers des Nations Unies sont même à l'intérieur, dans l'enceinte de cette prison. Et nous attendons un peu leur rapport final pour essayer de vous donner plus d'informations. Mais très tôt depuis ce matin, je confirme donc que la police des Nations Unies était sur les lieux. Voilà ce que nous pouvons dire et nous attendons donc le rapport final pour essayer d'avoir plus d'informations précises afin d'être de pouvoir vous informer. Nous allons prendre une deuxième question. J'avais vu une mail ici. Bon, allez-y, présentez-vous et puis une question s'il vous plaît. Je rappelle que nous avons un panel d'invités aujourd'hui, donc n'hésitez pas.
Merci, Rose, pour le compte du JT APIC. Une question aux droits de l'homme pour Roger-Marie Arnas. Généralement, tous vos rapports sont contredits par le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ce rapport ne soit plus contredit? Merci.
Oui, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien dit que les rapports parfois sont contredits, mais notre rapport sont très rigoureux par rapport de la méthodologie que nous appliquons. Ça, c'est la méthodologie de le commissaire des droits humains dans tout le monde. Ça veut dire que notre rapport a seulement l'information qui était vérifiée, au moins avec des sources d'informations, et qui étaient partagées avec les autorités avant d'être partagées avec vous. Ça veut dire la date de l'information qu'on partage avec vous de manière quotidienne ou bien de chaque mois, c'était l'information qui était vérifiée et qui était partagée avec les autorités, qui a donné l'opportunité aussi pour les autorités de conduire les propres enquêtes.
Je rappelle que nous avons, c'est vrai, les deux invités qui sont sur la table ici avec nous, l'ambassadeur Abari, Roger-Marie Arnas, mais nous avons ici un spécialiste des questions d'Ebola dans la salle. Il s'agit du docteur Valentin Mukinda, qui est épidémiologiste donc à l'OMS ici à RDC. Nous allons peut-être prendre une question de ce côté, s'il y a une question. Sinon, derrière vous, je crois, je vois une main. Allez-y.
Moi, c'est M. Alain Waikani pour l'agence de presse Chine Nouvelle. Je m'intéresse à Ebola. On a annoncé au courant de la semaine qu'on devait avoir une délégation des médecins ou des choses comme ça pour renforcer la situation sur le terrain. Est-ce qu'on peut, à ce niveau, savoir plus si déjà au niveau des Nations Unies, il y a déjà eu des gens, des équipes qu'on a déployées sur le terrain pour essayer d'encourager ou de mener des actions concernant l'épidémie.
Docteur Mukinda, la parole est à vous en quelques mots. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre confrère journaliste?
Oui, merci pour la question. Ce que je peux dire actuellement, c'est qu'effectivement, d'entrée du discours, notre collègue a signalé la délégation qui accompagne le ministre de la Santé. Et dans cette délégation, le ministre de la Santé est accompagné par le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé qui fait partie des Nations Unies. Et le représentant est aussi accompagné des experts épidémiologistes des Nations Unies, donc de l'OMS, et ceux du ministère de la Santé qui descendent sur le terrain pour aller retrouver les équipes précédentes qui sont déjà sur le terrain pour lutter contre cette épidémie.
Voilà, merci. Direction Goma. Nous allons prendre, malgré le nombre réduit de journalistes, nous allons prendre quand même deux questions. Allez-y, Goma, s'il vous plaît. Voilà.
Oui, mon nom c'est Frédéric Ferruzzi, je travaille pour Radio Santé Digitale. Et ma question c'est en rapport avec la sécurité du docteur Mukwege qui est revenu à la surface justement après l'assassinat du docteur Guido Biamonga Ouvira. Et cette question, en fait, c'est depuis cet assassinat en réalité que le docteur craindrait pour sa vie, pour sa sécurité. Alors, je voudrais savoir, Charles-Antoine, si jusqu'à ce point-là, vous ne trouvez pas encore qu'il y a, en fait, l'importance de reconsidérer en toute urgence la sécurité du docteur Denis Mukwege, qui suit, lui, arrive quand même à poser cette question de cette manière-là.
J'espère que vous avez bien entendu ce que j'ai dit au début de la conférence de presse. Je le répète de façon claire et précise. Depuis donc le 15 mai, la MONUSCO a déployé de manière préventive du personnel en uniforme à l'hôpital Panzi. Donc nous avons déployé du personnel à l'hôpital Panzi pour une protection, je dis bien 24 heures sur 24, et on augmentera également le nombre de patrouilles dans cette zone de Panzi jusqu'à ce que l'évaluation que nous avons l'évaluation sécuritaire que nous avons demandée, une fois que c'est terminé, nous allons donc voir si cette protection permanente 24 heures sur 24 est nécessaire sur le long terme, elle sera maintenue. S'il faut la revoir ou l'ajuster, nous l'ajusterons. Mais pour le moment, depuis le 15 mai, la protection permanente de l'hôpital Panzi est assurée par la MONUSCO. Voilà ce qu'on peut vous dire pour un peu répondre à cette question. Nous restons à Goma pour prendre une autre question.
Merci beaucoup. C'est Rodriguez Katouba. Je suis éditeur chez Abari RDC et correspondant de Radio Vatican. J'avais une question à poser normalement par rapport aux réfugiés sud-soudanais, les chiffres exacts actuellement. Mais comme vous avez parlé de Ebola, j'aimerais demander à l'expert, selon certains scientifiques, parler d'épidémie RDC, c'était très précipité parce que un cas ou deux cas de mort ne suffisent pas pour déclarer l'épidémie. Est-ce que c'était le ministre se serait trompé d'avoir utilisé le mot épidémie alors que ce n'était pas vraiment encore épidémie, ce n'était qu'un outbreak comme on l'appelle en anglais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la question. Il faut savoir que Ebola c'est une maladie grave, très mortelle, dont la létalité peut avoisiner même 90%. Et donc, sa définition des cas oblige à ce que, quand il y a un cas confirmé, cliniquement et biologiquement, on parle d'épidémie de cette maladie. Et donc, un cas confirmé d'Ebola, on peut parler d'une épidémie, quelle que soit la région.
Merci. Retour ici. Un complément d'information, allez-y.
Non, vous avez précisé que vous vouliez poser une question sur le nombre de réfugiés sud-soudanais. On vous donne la réponse. Il y a actuellement 74 148 réfugiés sud-soudanais sur le territoire congolais. Information donnée par nos collègues du HCR qui sont derrière moi.
Alors, il ne faut pas confondre, quand on parle de sud-soudanais, de la présence des ex-combattants SPLM, AEO, comme on a l'habitude de le dire, et les réfugiés civils soudanais en territoire sur le territoire de congolais. Donc il faut faire la part des choses, bien entendu. Nous allons revenir ici à Kinshasa pour prendre une question. Bon, on va rester de ce côté.
Merci Charles, c'est Elvira Pange pour le compte de la RTL. Il y a un journaliste camerounais qui a déclaré dimanche dernier sur les antennes de TV5 Monde que organiser les élections en RDC d'ici la fin de cette année, comme l'exige l'accord du 31 décembre, est peu plausible. Il indique que seul l'Angola et le Rwanda peuvent mettre fin à ce qui se passe en République démocratique du Congo.
Avec tout le respect que j'ai à ce journaliste, je ne sais pas pourquoi il faut croire à un journaliste camerounais qui est en France ou je ne sais pas dans quel pays il est, mais il faut voir les réalités ici. Nous avons la CENI, nous avons les autorités politiques ici, nous avons nous au niveau des Nations Unies un mandat qui est inscrit dans le cadre de la résolution 2348. Nous travaillons pour que ces élections puissent se tenir dans les délais donc prévus dans le cadre de cette résolution 2348. Et puis voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi il faut chercher des spécialistes aussi lointains s'ils sont spécialistes des questions électorales. Donc ayons les pieds sur terre et regardons donc les réalités congolaises ici plutôt que de chercher des réponses lointaines. Je vais prendre une autre question à côté, peut-être votre voisine. Allez-y.
Voilà, merci. C'est Mireille Miraghi du journal Le Phare. Il y a de cela quelques semaines, Monsieur Mamadou Diallo, avec le directeur pays de Ocha, avait annoncé une demande de fonds pour venir en aide les populations déplacées massivement dans le Grand Kasaï. Je voudrais savoir à quel niveau se situe cette opération.
Florence Marchal, la demande de fonds, effectivement, du système des agences humanitaires des Nations Unies, vous en aviez parlé il y a quelques semaines, où en est-on ?
Eh bien, Yvon Edoumou, qui est chargé de la communication au Tchad, va pouvoir répondre. Yvon ?
Très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas les détails chiffrés. Effectivement, nous avons lancé cet appel il y a un peu plus de 3 semaines. Mais on peut se voir après la conférence pour donner les détails. Là maintenant, je ne les ai pas. Mais je rappelle que c'était effectivement un appel de 65,4 millions de dollars pour le Kasaï. Et je peux aussi ajouter que la semaine dernière, effectivement, le directeur pays de Ocha, Monsieur Rein Paulsen était en Europe, une tournée de sensibilisation et de mobilisation de ressources, non seulement pour le Kasaï, mais pour la crise humanitaire de façon un peu plus large. Mais après la conférence, je peux vous donner des détails sur le niveau de financement actuel.
On a une question ici, pas de question là. Où ça? Allez-y, voilà, donnez à la dame d'abord. Voilà, merci.
Merci, c'est Mimi, je suis auditeur de Canal Congo Télévision. C'est par rapport à l'évasion de quelques prisonniers au centre pénitentiaire de Makala. Est-ce que par rapport à ça, la MONUSCO prévoit des mesures sécuritaires pour éviter l'insécurité dans la ville?
Peut-être que José Maria, qui travaille sur les questions de droits de l'homme, peut avoir quelques éléments de réponse. Il faut savoir simplement que l'administration pénitentiaire de la RDC est la première responsable de la sécurité dans les prisons. C'est vrai que nous avons donné dans cette conférence de presse un exemple. D'ailleurs, nous avons toujours cette cellule, cette section de la justice et de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO qui appuie l'administration pénitentiaire congolaise par des formations, par toutes sortes d'appuis. Cet appui, ce soutien donc de notre section appui à l'administration pénitentiaire va se poursuivre, bien entendu. Et dans ce cadre-là précis, je suis sûr qu'ils vont faire une évaluation de la situation ensemble pour voir un peu les mesures envisagées pour mieux sécuriser non seulement Makala, mais les autres prisons à travers le pays. Est-ce que, José Maria, vous avez quelque chose à ajouter? Pas vraiment?
Non, pas vraiment. Dire absolument des choses. Oui, nous travaillons avec les autorités pour améliorer les conditions de la population carcérielle dans tous les pays. Comme vous savez, l'infrastructure carcérielle et la situation dans les prisons mérite une attention spéciale. L'infrastructure est vraiment obsolète et les mesures de sécurité parfois ne sont pas au niveau qu'il faut, mais nous avons une section spécialisée pour améliorer les conditions de vie et surtout aussi on fait les suivis dans les situations de droits humains dans toutes les prisons du pays. Par rapport à la situation ici à Kinshasa, comme Charles a bien dit, nous sommes en coordination avec les autorités pour voir ce qu'on peut faire pour contribuer à améliorer la situation en général de la prison à Makala, donc on fait les suivis de manière quotidienne, mais aussi les suivis à cette crise concrète.
Est-ce qu'il y a une question pour le docteur Abari? Sûr? Allons-y. On prend une question.
Bon, merci. Comme c'est Isaac Mwenza pour le compte Congo et les loges, je voudrais m'adresser à l'ambassadeur Abari. Je m'adresse à l'excellence monsieur l'ambassadeur. Je voudrais juste savoir, est-ce que il n'y a pas restriction de médias dans la couverture de vos activités? Merci.
S'il n'y a pas une restriction.
Oui, si.
Mais absolument, absolument, on est ouvert. Moi-même, je pense que je suis passé sur la RTNC2 il y a 48 heures. Hier, j'étais sur la RTNC. Le dimanche dernier, on avait organisé une course d'entraînement avec la Ligue cycliste de Kinshasa sur Tchatchi. Et il y a quelques membres de la presse ici à Kinshasa qui étaient présents. Et donc pour le dimanche, on est ouvert et pour tous les autres événements, la presse est la bienvenue.
Vous aurez l'intégralité de ce programme d'activité de l'Union africaine à la fin également de cette conférence de presse qui vous sera remise. Est-ce que nous avons une question à Goma, s'il vous plaît, sur les activités de l'Union africaine ou toute autre chose? Goma, pas de question. Retour ici à Kinshasa pour prendre une minute. Allez-y alors, puisque vous avez le micro.
Saint-Florian Katumba, pour le compte de l'explorateur. Une préoccupation pour le directeur Charles-Antoine Bambaga. Et nous avons appris que la permanence des lieux de presse, qui a été cadencée par la police congolaise, est libre. Est-ce que malgré le nouveau mandat de la MONUSCO qui demande aussi son intervention, la MONUSCO a joué quel type de rôle majeur en concernant la libération de la permanence des lieux de presse? Je vous remercie.
Non, il faut simplement dire à ce niveau que dans son cadre général de protection des civils, la police nationale des Nations Unies, donc la UNPOL comme nous appelons communément, a été au cœur de la protection autour de Limité et dans Limité au cours de ces dernières semaines, comme vous le savez. Ils sont déployés là-bas, ils font des patrouilles permanentes et nous avons eu assurance du commissaire de la police des Nations Unies que les patrouilles avaient été maintenues dans et autour de Limité pour, dans le but essentiellement de protéger les civils. Hein. Et donc ces patrouilles se poursuivent d'ailleurs de façon régulière, non seulement c'est vrai là, mais aussi ailleurs. Et nous suivons de très près, comme on l'a dit tout à l'heure, la situation bien sûr autour de Makala et aussi ailleurs s'il y a des poussées de crise ou de troubles ici et là.